Amis de YouTube, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes dans la matinale, la matinée Étienne sur Twitch, 5 ans de revue de presse et de temps en temps, oh, que dis-je, tous les jours, on met en avant une actu pour la partager avec vous, amis de YouTube. Et on voulait parler avec vous ce matin de la présidentielle avec cet article dans Le Monde signé Michel Noblecourt qui nous dit sur le papier aujourd'hui la probabilité la plus forte de l'affiche du deuxième tour de la présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon versus le candidat du RN, qu'il soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Pourquoi? Parce que au nombre d'ambitions et d'appétits présidentiels dans la droite LR et le bloc central d'un côté et la gauche non mélenchoniste de l'autre, eh bien, au vu de la multiplication des candidatures qui pourraient se produire, c'est l'affiche de second tour la plus probable. Michel Noblecourt ne le cache pas. Lui, il estime que la perspective de voir Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella élus ne serait pas une bonne nouvelle pour la France. Donc c'est une analyse engagée. Hein, vous la partagez pas, mais c'est son analyse. La voici, que dit-il? Une telle avalanche de candidatures risque d'aboutir à un duel entre le Rassemblement National et la France Insoumise, et lui le regrette. À un an d'élection présidentielle, sur fond de grave crise internationale, la scène politique française est dans le brouillard. De l'extrême droite à la gauche radicale, on recense près de 30 candidatures potentielles. Quand en 2022, on n'en comptait finalement que 12, le record ayant été atteint en 2002 avec 16 postulants. Alors, il y a un truc dans l'analyse qui m'embête, c'est que il me semble que l'auteur de l'article compare des candidatures potentielles, aujourd'hui une trentaine, avec des candidatures finales, c'est-à-dire avérées, en 2022, 12 et 16 en 2002. Donc, voilà. Accrocaser est d'accord. Mais c'est pas la même chose. Combien de ces 30 candidats potentiels vont pouvoir se présenter? Vont, un, se présenter, franchir le Rubicon, et deux, avoir les signatures, les 500 signatures. Hein, dans l'histoire de la 5ème République, il y a beaucoup de candidats qui ont voulu se présenter et qui n'ont pas eu les 500 signatures. Déjà, premier bémol. Officiellement, seuls deux candidats sont aujourd'hui sur les rangs. Ça, c'est intéressant. Il n'y a que deux candidats officiellement déclarés. Bon, ça va s'accélérer, bien sûr. Bruno Retailleau, pour le parti LR, investi le 19 avril par son parti. Et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, Horizon, qui lui est parti depuis longtemps déjà. Certains disent qu'il est parti trop tôt. En tout cas, réélu à sa mairie du Havre, et tant mieux pour lui puisqu'il avait fait de sa réélection dans sa mairie du Havre une condition à sa candidature. Donc deux candidats officiellement déclarés aujourd'hui. À 12 mois de l'échéance, les sondages sur les intentions de vote sont à observer avec prudence, tu m'étonnes, même à J-30, hein. Il faut prendre des sondages avec prudence. Et à un an encore plus. Les sondages sur l'intention de vote sont à observer avec prudence, tant l'histoire a montré qu'ils étaient souvent éloignés de la configuration finale. L'auteur de l'article nous rappelle prudence avec les sondages. D'ici là, avec ou sans primaire, incertaine à droite comme à gauche, le paysage va s'éclaircir, sachant que le ticket d'entrée pour le second tour risque d'être plus bas qu'à l'accoutumée, autour de 15% au lieu de 20%. Un truc qui va sans doute inciter à la multiplication des candidatures, c'est que comme le paysage politique français est extrêmement morcelé, le ticket d'entrée de qualification pour le deuxième tour est beaucoup plus bas que d'habitude, estiment beaucoup d'observateurs. Et ça favorise la candidature, bien sûr. Une telle avalanche de candidatures risque de s'avérer mortifère et d'aboutir, c'est la crainte de l'auteur de l'article, à un duel entre les champions du Rassemblement National et de la France Insoumise. Un croqueur me dit, je pense qu'on fait une fixette sur la présidentielle, mais on devrait davantage s'intéresser aux législatives. Je vois que ce que tu veux dire, et tu as raison. On en a parlé il y a deux jours. Il est tout à fait possible que le président ou la présidente élue en 2027 n'ait pas de majorité à l'Assemblée. On se retrouve dans la situation actuelle avec un président ou une présidente avec très peu de pouvoir effectif puisqu'il n'a pas de majorité pour soutenir sa politique et ses réformes. Tu as raison. Il faut se pencher sur les deux élections puisque le président ou la présidente élue en 2027 va dissoudre l'Assemblée pour tenter de dire aux Français, bah donnez-moi maintenant les moyens de ma politique, donnez-moi une majorité idéalement absolue à l'Assemblée. Ça se produira ou ça se produira pas, c'est le retour du fait majoritaire ou pas le retour du fait majoritaire, mais du coup, la présidentielle de 2027 ne sera rien sans le résultat des législatives qui suivront. Si Marine Le Pen est élue en 2027, ou Bardella, mais si l'extrême droite n'a pas de majorité au Parlement, ils seront empêchés, ils seront gênés, comme aujourd'hui le président Macron est empêché et gêné pour mener sa politique. Si c'est Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est l'hypothèse qui est évoquée aussi ce matin, et qu'il n'a pas de majorité, idem. Les deux élections sont essentielles pour l'avenir de notre pays. Les deux, elles sont directement liées. Plus encore que d'habitude, puisqu'il y a ce fait majoritaire qui a accompagné l'essentiel de l'histoire de la 5e, qui faisait que quand un président était élu, puisque jusqu'ici on n'a eu que des hommes présidents, un président était élu, il avait quasiment systématiquement une majorité absolue ou relative à deux reprises à l'Assemblée. Ce fait majoritaire, il a disparu, avec une explosion du paysage politique français, avec plusieurs gros pôles et pas seulement un grand camp gauche et droite. Donc c'est une petite révolution dont on est en train de comprendre les conséquences. Continuons. À droite, l'équation s'annonce très complexe. Bruno Retailleau veut incarner une rupture avec le macronisme, alors qu'il a été perdant pendant plus d'un an de ministre. Ah, c'est vrai qu'il avait été ministre. Il a été ministre pendant un an d'Emmanuel Macron. Bas dans les sondages, alors c'est vrai que Retailleau est assez bas, il paraît sur un croisement des courbes. Pourquoi Retailleau croit à sa victoire finale? Qui lui permettrait à l'automne de passer devant Édouard Philippe. Toujours le seuil de qualification assez bas. Et de faire oublier le score calamiteux de la dernière candidate de droite à une présidentielle, Valérie Pécresse, 4,78%, sous la barre des 5%, sous la barre du remboursement des frais de campagne. Perspective d'autant plus aléatoire que son camp est très fracturé. Quelles sont les chances de la droite? Quand je dis droite, ici comprenez droite républicaine LR. Perspective d'autant plus aléatoire que le camp est très fracturé. Xavier Bertrand, le président du Conseil régional des Hauts-de-France, qui lui aussi pense à la présidentielle, se comporte en élection libre, en électron libre, pardon, il n'a pas renoncé à concourir. Donc ça nous fait Retailleau, ça nous fait Bertrand, ça nous fait David Lisnard, le maire de Cannes, qui vient de sortir du parti d'ailleurs, LR, qui a des ambitions depuis un moment déjà, qui a quitté LR pour se lancer dans la compétition. Alors, pas officiellement encore, je suis pas sûr que David Lisnard ait annoncé sa candidature, mais qui est une autre voie à droite. Laurent Wauquiez, qui se pose toujours en embuscade. Michel Barnier, qui juge qu'il a les qualités requises pour être président de la République. Ça fait beaucoup de monde à droite, hein, on récapépète. Retailleau, Bertrand, Lisnard, Wauquiez, Barnier, et on en oublie peut-être. Villepin. Alors, je crois qu'on ne peut pas le comptabiliser dans LR, Villepin, à ce jour. Mais oui, Villepin, bien sûr. Est-ce qu'il n'est pas compté plutôt dans le bloc central? Parce que quelqu'un me parle d'Attal. Ah non, Attal, Philippe, ils sont comptés par le monde dans le bloc central. Là, on est dans le bloc LR. Alors, vous pouvez estimer que le bloc dit bloc central est un bloc de droite, mais là, le monde parlait de LR. Et Attal n'est pas LR. C'est tellement illisible qu'on essaye d'être le plus carré possible. Justement, parlons du bloc central. Pour ce qui reste du bloc central, qui n'est ni un bloc ni central désormais, les ambitions apparaissent au grand jour. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal, voilà, secrétaire général de Renaissance, libéré de Macron, avec lequel il a rompu lors de la dissolution de 2024, fameuse dissolution ratée, est prêt à affronter Édouard Philippe, en est dans le bloc central. Il vient de publier, Monsieur Attal, un livre, une esquisse de programme, ça s'appelle « En homme libre ». Philippe et Attal au centre, on n'a pas la même vision du centre, mais personne n'a dit que c'était au centre. C'est le nom institutionnel, le nom donné par les observateurs à ce bloc. Bloc central, ça ne veut pas dire qu'ils sont au centre. Ne vous laissez pas abuser par les mots. Le gars qui écrit l'édito vient de le dire. Pour ce qui reste du bloc central, qui n'est plus ni un bloc ni central, il vient de vous le dire que c'est pas du centre. Écoutez-le. Les mecs viennent en opposition à un texte qui disent la même chose que vous. Bordel. Ils viennent de vous le dire. Il est d'accord avec vous. L'invention des batailles qui n'existent pas, quoi. Continue donc. Donc Attal, le programme. Donc bien décidé à aller jusqu'au bout. Ça en fait des gens qui sont bien décidés à aller jusqu'au bout. Entre les deux anciens premiers ministres, donc on parle d'Attal et de Édouard Philippe, Gérald Darmanin, ça j'avais oublié lui, garde des sceaux et dernier grognard du président, se garde bien de dévoiler son jeu. Alors bloc central, donc on a Édouard Philippe, Gabriel Attal, Darmanin. Je sais pas où ils mettent Villepin d'ailleurs. Villepin, je crois qu'ils le mettent nulle part. Oui, à droite, bah oui, il est pas communiste, je sais, mais dans quelle petite case de la droite ils le mettent? Parce qu'on en est là maintenant à essayer de trouver, mettre des gens dans les petites cases pour à peu près comprendre d'où ça vient, quoi. Le problème du concept de droite, c'est que vous pouvez pas l'utiliser, il est trop flou. Rappelons que Marine Le Pen, elle dit qu'elle est à droite. Jordan Bardella, il dit qu'il est de droite. Même Éric Zemmour, à mon avis, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans le détail de ce discours, mais il dit qu'il est de droite. Donc la droite, le terme est tellement galvaudé aujourd'hui qu'à un moment, il faut être un peu plus précis. D'où LR, d'où Bloc Central, d'où, etc. Donc ça, c'est pour la droite, enfin LR et le Bloc Central. De son côté, la gauche offre l'image d'un long tunnel qui risque de déboucher sur une impasse. Petite phrase, mais qui résume très bien la situation pour la gauche. La gauche offre l'image d'un long tunnel qui risque de déboucher sur une impasse. Une primaire aux modalités encore floues est annoncée pour le 11 octobre pour départager Olivier Faure, premier secrétaire du PS, qui de plus en plus contesté n'est pas suivi par son parti, la chef des écologistes Marine Tondelier, les anciens insoumis qui ont quitté LFI ou qui ont été mis dehors, je sais plus, Clémentine Autain, François Ruffin et Alexis Corbière. Alors, est-ce qu'il y aura une primaire à gauche entre toutes ces personnes? On y croit de moins en moins. Alors, ses chances d'aboutir sont de plus en plus faibles. Boris Vallot, le patron des députés socialistes, ne cache pas son opposition à cette primaire. Donc à gauche, maintenant, vous avez ceux qui sont pour la primaire, ceux qui sont contre la primaire. Boris Vallot est contre. Sans abattre toute cette carte, est-ce que Boris Vallot va y aller? Il y a François Hollande. Ah oui, il y a Nico Manga, peut-être François. Il y a François Hollande qui se remet dans l'équation, dont on comprend aujourd'hui qu'il n'a pas totalement tiré un trait sur l'idée de redevenir président. Jérôme Guedj, député PS de l'Essonne, également opposé à la primaire, qui s'est déclaré candidat sans être investi par son parti. Le sénateur écologiste Yannick Jadot et Karim Bouamran, le maire PS de Saint-Ouen, on en a parlé avec la guerre du chicken poulet, je sais pas quoi là, récemment, pourraient se joindre à la mêlée. À moins que messieurs Vallot, Guedj, Jadot et Bouamran rejoignent une coalition qui se cherche encore, ouvertement réformiste et résolument hostile à LFI et surtout à Jean-Luc Mélenchon. Raphaël Glucksmann, on va pas parler de Glucksmann encore. Place publique qui a une bonne tenue dans les sondages mais peine à percer, rêve d'une fédération regroupant plusieurs forces social-démocrates, comprenez la gauche sans Mélenchon. L'ancien Premier ministre Cazeneuve, vous allez me dire, mais c'est sans fin, ben oui. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a quitté le PS et fondé une convention avec le Parti radical de gauche, se dit prêt à être candidat en 2027. Même Manuel Valls y songe, parce que certains me disaient tout à l'heure, ah, t'as oublié Manuel Valls. Ben non, il est là aussi. Même Manuel Valls y songe. Ils pourraient être tous départagés par François Hollande, qui veut faire de son expérience internationale un atout pour tenter de retrouver une crédibilité. Donc on s'est penché sur la multiplication des candidatures à droite, à gauche, comme le dit Josgo 21, ça fait du monde. L'ancien président de la République multiplie ses contacts à gauche et au centre et se prépare à ciel ouvert. Alors quelqu'un me disait, et tu n'as pas parlé de Fabien Roussel chez les communistes. Secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, ne s'interdit pas de se présenter à nouveau. Tandis que Nathalie Arthaud a sauté le pas pour Lutte ouvrière. Le NPA, le nouveau parti anticapitaliste qui s'est scindé en deux, pourrait avoir donc deux candidats. Et dans ce panorama, Dominique de Villepin, le voici, tisse sa toile. Bientôt autant de candidats que d'équipes de foot à la Coupe du Monde. Ça va faire une belle compétition, lis-je dans le chat. Dominique de Villepin tisse sa toile. L'ancien Premier ministre a fait un retour à grand bruit, fort de l'image positive à gauche de son discours aux Nations Unies en 2003 contre l'intervention américaine en Irak, faisant oublier à ce stade le sévère revers que les syndicats lui ont infligé en bloquant en 2006 le contrat première embauche dont il avait été l'artisan. Sauf envolé encore. J'aime bien cet article parce qu'en fait, il ne rappelle que des choses qu'on sait déjà. Mais il a cet intérêt, cet article, de faire une espèce de photographie à l'instant T, là, aujourd'hui, 2 mai 2026, de la situation politique de notre pays, qui dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, pourrait être radicalement changé. Et maintenant, fin de l'article de Michel Noblecourt dans Le Monde. Une synthèse, exactement. Dans un paysage politique qui en manque de synthèse. C'est une synthèse qui montre qu'il y a un problème de synthèse en France. Sauf envolé encore hypothétique d'Édouard Philippe ou de François Hollande, le second tour de l'élection présidentielle risque de se jouer, estime l'auteur de l'article, entre Jean-Luc Mélenchon, qui bat pourtant des records d'impopularité, et probablement Jordan Bardella. Bon, là je trouve que l'auteur de l'article enjambe un petit peu le rendez-vous judiciaire du 7 juillet, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la justice ne va pas revenir en arrière et va déclarer Marine Le Pen inéligible en 2027. Moi, je ne serais pas si catégorique. C'est la justice qui décide. Risque de se jouer entre Jean-Luc Mélenchon et probablement Jordan Bardella, le président du RN, si Marine Le Pen, comme l'extrême droite semble s'y résigner, est condamnée en appel le 7 juillet à l'inéligibilité. Lionel Jospin. Vous allez me dire, mais Jospin, qu'est-ce qu'il vient faire Lionel Jospin là-dedans? Il est mort. Oui, bah il le sait. Mais pourquoi Lionel Jospin? Imaginez Lionel Jospin candidat. Bon, il va me dire, il est mort. Ça peut être possible. Il est mort, hein? Mais d'accord, hein? Il est mort, hein? Oui, hein? Il est mort. Mais imaginez. Fermez les yeux. Il est pas mort. Imaginez, Jospin dit, je reviens en politique. Et avec la même solennité que celle qu'il a utilisée pour annoncer son retrait de la vie politique après son élimination au premier tour de la présidentielle au détriment de Jean-Marie Le Pen, première fois qualifié pour le deuxième tour d'une présidentielle, imaginons que Lionel Jospin, vivant, pas mort, annonce solennellement son grand retour en politique pour se présenter à la présidentielle 2027. Eh bien, il manquerait plus que ça. Bon, il est mort. Donc on n'aura pas ça. Lionel Jospin, qui jusqu'à la fin de sa vie a rêvé d'une renaissance ou d'autres formes de la gauche plurielle, dont la dispersion de la présidentielle de 2002 a pourtant conduit à sa mise à l'écart du pouvoir, n'aurait pas aimé un tel scénario. Pour la troisième présidentielle d'affilée, la gauche serait privée d'accéder à l'Élysée. Ce serait, pour elle comme pour la droite républicaine, le retour de la machine à perdre. Pour résumer cet article, la droite LR, la droite traditionnelle, la droite composée de LR et du bloc central, et de quelques électrons libres, et la gauche non mélenchoniste, est divisée, fourmille de candidats putatifs potentiels qui en rêvent de l'Élysée. Et cette dispersion est un facteur favorisant un deuxième tour Mélenchon-RN. Voilà. Peut-être qu'il ne se trompe pas. Si, au soir du premier tour, en 2027, on se retrouve avec un deuxième tour Mélenchon-Le Pen ou Mélenchon-Bardella, on repensera cet article de Michel Noblecourt un an auparavant et on se dira « Ah, il avait raison Michel, mich-mich ». Puis là, il faudra choisir. Et j'ai l'impression, me dit un grand homme Goujon, que Villepin va beaucoup drainer les voix de la gauche. Il est plus acceptable et normie-friendly que Mélenchon pour de nombreux votants. Je me trompe peut-être, mais le duel Villepin-Bardella me semble le plus probable pour l'instant. Ouais, dans les sondages, c'est pas encore ça pour l'instant. Pourquoi pas? Ouais, c'est intéressant. Oui, mais encore faut-il, alors, imaginons que Villepin décolle dans les sondages. Il faut qu'il soit devant Mélenchon au soir du premier tour. Et ça, c'est très compliqué, c'est très chaud. Il est pas impossible que Jean-Luc Mélenchon fasse un bon score au premier tour. Il s'agit pas d'être le premier de tous les autres. Il s'agit d'être le deuxième du premier tour. Puisque il est, sauf énorme accident, il est évident que le candidat en tête au premier tour, c'est un candidat RN. Aujourd'hui. Si l'élection a lieu aujourd'hui. Donc la question, c'est qui est le numéro 2 pour aller au deuxième tour? Si Mélenchon et devant Villepin, il n'y a pas de Villepin. À Java Mulot, je ne pense pas que Villepin puisse passer le premier tour. Au deuxième, il ferait consensus, mais il ne plaît ni à la gauche ni à la droite. Ça, c'est une analyse que j'ai lue, ça. Villepin serait un... J'ai lu ça. Cette analyse qui est partagée par d'autres, c'est-à-dire que Villepin serait un excellent candidat de deuxième tour face au RN, mais qui ne passera pas le premier. Il y a un monde où Le Pen peut se présenter et où ça se déchire entre Le Pen et Bardella. Non. Pour deux raisons. Si la justice déclare Marine Le Pen inéligible, elle ne peut pas se présenter. Point. Si la justice déclare Marine Le Pen éligible le 7 juillet, et on fera un live le 7 et le 8 bien sûr pour en parler, dans ce cas-là, Bardella n'aura d'autre choix que de se ranger derrière Marine Le Pen. Au RN, ex-FN, tu as une tradition historique dans l'ADN du parti, il y a un chef. Et c'est un parti qui sait exclure et mettre de côté ceux qui se rebellent contre le chef. Bardella ne pourra jamais se dresser devant une Marine Le Pen éligible. Historiquement, naturellement, la candidate du RN, c'est elle. Ce n'est Bardella que si Marine Le Pen ne peut pas y aller, si elle est empêchée. Donc ça, je n'y crois pas. Une guerre des chefs au RN, je n'y crois pas. Et si Bardella avait cette tentation de lancer cette guerre des chefs, de dire aux militants, ok, elle est éligible, mais il faut que ce soit moi, ou je crée un autre parti, je suis pas sûr qu'il sera suivi par la majorité des militants, des sympathisants, des élus du RN. Mais alors, je peux bien me tromper, hein. Aussi, hein. Ce n'est que mon analyse. En tout cas, ce serait un cadeau merveilleux fait à leurs adversaires. Parce que si vous divisez les voix du RN entre deux candidats au premier tour, entre une Marine Le Pen éligible et un Bardella qui se dresse contre Marine Le Pen, vous créez la possibilité que deux autres candidats se qualifient pour le deuxième tour sans candidat RN. Ce serait un immense cadeau. Mais je n'y crois pas. Après, je n'y crois pas et en même temps, c'est de la politique. Je ne suis pas dans la tête de Bardella. D'abord, c'est nous partons de l'hypothèse où Marine Le Pen n'est pas déclarée inéligible par la justice et ça, nous ne savons pas, nous serons 7 juillet, donc c'est un peu tôt pour se poser la question. Et nous ne sommes pas dans la tête de Bardella, je ne l'imagine pas, mais je peux me tromper. Je vous lis. Qui lit les programmes, dit Axel, on devrait tous lire les programmes. En tout cas, ce qui serait très intéressant, je sais pas si c'est le mot, c'est qu'on se retrouve tous ensemble, là, au soir du premier tour 2027, avec cette affiche, imaginez un instant, Le Pen, Mélenchon, ou Bardella, Mélenchon. Et là, on a, c'est quoi, deux semaines entre les deux tours. Et que il faut décider de savoir qui d'un candidat RN et de Jean-Luc Mélenchon ou de Jean-Luc Mélenchon préside aux destinées de la France pour 5 ans. Improbable. Sur le papier, c'est ce qui est le plus probable, n'est-ce pas, aujourd'hui. Bon, ça nous fera du contenu.